C'est bon ? Alors R22, tout le monde, antenne Arsport 2024. Et après ?
Bonjour Cyril, qui es-tu ? Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Bonjour Neil, je suis actuellement doctorant depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Je réalise une thèse sur le jonglage, son évolution récente en France en particulier, depuis les années 70-80 environ. J'effectue cette thèse à l'Université Lyon 2, sous la direction de Julie Sermon, et en parallèle de cette thèse, je continue à jongler. C'est une pratique que j'ai depuis au moins l'âge de 10-11 ans environ. Donc, c'est très imprégné aussi dans mon parcours.
Et justement, Cyril Roussial, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours ?
Eh bien, le jonglage a toujours été d'une certaine manière présent, peu importe les études que j'ai pu faire. En ce qui concerne les études, elles ont été assez riches souvent pluridisciplinaires. C'est-à-dire que dès la fin de mon bac, j'ai commencé à vraiment me rester non spécialisé. J'avais juste pour envie de vraiment pratiquer à la fois les sciences sociales et de garder un pied dans les mathématiques et d'autres disciplines proches des sciences dures. Et ensuite, un petit détour par l'histoire pour mieux appréhender l'importance du corps ou de la sensibilité ou des émotions qui peuvent devenir vraiment des objets d'étude à part entière et très utiles pour mieux connaître notamment l'histoire du cirque. C'est à ce moment-là, justement, avant de passer en master, que je me suis dit que ça valait la peine de prendre plus de temps pour appréhender le jonglage comme un objet à part entière. Et depuis maintenant 3-4 ans, c'est le cas. J'ai donné du temps à l'ENS uniquement en master en dramaturgie, justement au pluriel. C'était l'intitulé du master où on appréhendait vraiment le champ très large des arts de la scène et où j'avais moi de la place pour commencer à me questionner déjà un peu plus sur des œuvres artistiques, mais aussi à garder la place que j'avais dans mon passé en tant que jongleur amateur, puisque je continue à pratiquer. Et cela s'est poursuivi jusqu'à la thèse, qui prend aussi bien en considération le jonglage comme une pratique amateur que comme une pratique professionnelle. Et notamment à travers aussi les différentes expériences de stage pour mieux comprendre comment fonctionne la filière cirque et plus largement aussi le secteur du spectacle vivant, lorsque j'ai pu passer quelques mois à l'Académie Fratellini ou même au ministère de la Culture en tant que chargé de mission cirque. Voilà.
Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment le jonglage, quel lien le jonglage entretient avec les milieux de l'art et du sport ?
Alors, en l'occurrence, c'est assez vaste et en même temps, on sent qu'au regard des développements des disciplines qui peuvent être du jonglage ou ce qui peut en tout cas être appréhendé comme un mouvement de jonglage, il y a beaucoup de disciplines sportives qui peuvent présenter vraiment intéresser les jongleurs. Je sais qu'il y a beaucoup, au moment où les agrès se sont développés durant le milieu du 19e siècle, il y avait beaucoup d'objets dont les jongleurs aussi se sont emparés, comme le vélo par exemple à la fin du 19e. Et en fait, jusqu'à nos jours, on voit l'importance que cela peut avoir aussi entre la proximité de certains jongleurs et jongleuses avec beaucoup d'autres praticiens de disciplines ludosportives comme par exemple le BMX ou le skate, qui soient des skateurs ou des skateuses. Les influences sont vraiment très riches à chaque fois dans chacune des productions, et pas seulement pour entre amateurs, mais vraiment aussi des professionnels qui s'inspirent vraiment des vidéos de skate comme par exemple Wes Bedden ou après d'autres problématiques plus proches, on va dire, de l'importance que peut avoir le jonglage en tant que sport aussi, parce que ça reste une activité physique assez forte. Voilà. Même si on a eu des petits passages très précis, notamment avec les Jeux Olympiques, où on a eu en 1904 et 1932 des massues qui étaient manipulées plus dans une dimension militaire comme des sortes de poils. Ça s'appelait le club swinging. Tu as, au fur et à mesure voilà, de l'évolution du jonglage, toujours une proximité forte quand même, des porosités assez intéressantes à retenir, quoi.
Et tu nous as parlé du coup de cette présence des massues aux Jeux Olympiques et actuellement le jonglage prépare une candidature pour entrer aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous parler de cette candidature ? Qui la porte ? Comment elle s'organise ? Qu'est-ce qu'elle suscite comme interrogation sur la pratique ?
Alors, cette candidature, elle a vraiment trait à une personne qui porte depuis des années une association qui est la World Juggling Federation. C'est une association qui a été créée début des années 2000 aux États-Unis. C'est vraiment dans un contexte états-unien que cela se passe, parce que ce n'est pas vraiment, ce ne sont plus en tout cas, ce ne sont pas du tout aujourd'hui des questions qui sont vraiment posées à l'échelle de la France. Mais en l'occurrence, ce jongleur, Jason Garfield, qui a d'abord été un membre important d'une association internationale des jongleurs qui compte encore beaucoup aujourd'hui de la majorité des adhérents, eh bien, en fait, cette personne voulait s'interroger déjà dès le début des années 2000 sur l'importance que peut avoir le jonglage en tant que sport, vraiment de valoriser uniquement l'aspect technique, de ne pas... notamment sur la manière de l'évaluer, de retenir des critères, si tu veux, pour que des compétiteurs et des compétitrices se démarquent. Il n'y avait plus du tout l'aspect original ou esthétique, mais vraiment l'aspect technique, ce qui serait presque synonyme en fait de ce qu'est le jonglage de la WJF. Et cette candidature, justement, vient marquer tout un parcours que cette personne a suivi en fait depuis 15 ans en défendant l'importance que peut avoir le jonglage en tant que sport. Ça s'est marqué par sa présence aussi dans des émissions télévisées comme sur des chaînes qui vraiment sont aux États-Unis. Mais là, aujourd'hui, vraiment, en novembre prochain, il y a cette volonté, dans le cadre d'une convention, donc vraiment là au sens anglophone, un festival où se rassemblent des jongleurs et des jongleuses, des praticiens qui partagent en tout cas le même centre d'intérêt, en novembre prochain, de faire de cette prochaine édition de son festival un temps aussi pour servir d'une certaine manière de support pour être évalué au niveau de sa candidature pour faire du jonglage une discipline au JO.
Et cette dimension art sport dont tu nous as parlé avec notamment l'intérêt de beaucoup de jongleurs pour le vélo, le BMX ou le skate, est-ce qu'elle se traduit aussi dans l'enseignement du jonglage ? Est-ce qu'on retrouve cette réalité dans l'enseignement du jonglage ?
Eh bien, tout dépend, j'imagine, aussi de à quel moment on se trouve dans le parcours d'une formation en école de cirque, mais j'ai quand même le sentiment, au regard de la place que peuvent avoir certaines de ces pratiques, comme par exemple le BMX, ou la part si importante que peut avoir la breakdance, on a quand même, on va dire, on sent quand même que dès l'école de cirque, cette dimension art-sport peut être quand même prise en compte, et notamment sur l'aspect technique qui compte encore beaucoup dans les bases que l'on doit constituer pour l'apprentissage en école de cirque. Néanmoins, je mettrais peut-être une certaine nuance à savoir à quel point ces influences urbaines ou propres à une culture aussi populaire peuvent être suffisamment injectées et des fois peut-être un peu plus faire preuve de plus d'ouverture sur ces influences qui comptent pour beaucoup de ces jongleurs et jongleuses qui généralement entrent en école avec en étant nourris d'un bagage et d'un imaginaire qui n'est pas nécessairement celui qu'on valorise en école d'art plus largement, quoi.
Et justement, cet imaginaire très large, il se forge dans une école, on va dire, alternative, hein, mais qui est finalement centrale dans l'apprentissage du jonglage, qui est celle de la rue, celle de l'espace public. C'est l'endroit où on se retrouve et où on transmet et où on performe. Et souvent, tout ça en même temps, ce qui donne un espace social incroyablement riche. Est-ce que tu peux nous raconter la place qu'a pris l'espace public dans le développement de la communauté ? Et peut-être ensuite nous éclairer aussi sur la façon dont ça permet à aux communautés des jongleurs de se relier avec plein d'autres pratiques.
Alors, tu me rappelleras peut-être la deuxième question, mais en tout cas pour la première, l'importance qu'a pu avoir l'espace public dans le développement de la communauté des jongleurs, en considérant qu'il y a aussi bien des professionnels que des amateurs, elle a été assez remarquable en fait dès les années 80 et a toujours été si importante jusqu'à nos jours, même de plus en plus. Alors bon, on n'évacue pas hein, qu'il y a d'autres lieux de sociabilité, en tout cas des lieux où peuvent se retrouver les jongleurs et jongleuses, hein, qui sont les gymnases, notamment en période d'hiver. Enfin, en tout cas, généralement des lieux clos qui permettent de maintenir une certaine régularité. Toute l'année, parce qu'il y a évidemment les festivals, ces conventions dont je parlais tout à l'heure, qui investissent l'espace public, notamment en fait la ville ou l'endroit ou en tout cas où est accueilli le campement et généralement autour d'un complexe sportif, parce qu'il peut y avoir un gymnase et de la place pour accueillir des chapiteaux et tout ce que l'on peut imaginer pour ce genre de grand festival. Après, pour ce qui est de l'importance après dans l'année, en fait, c'est qu'il y a vraiment quand même une place importante qui est donnée à l'espace public comme un endroit à investir, non seulement pour se rencontrer, mais pour aussi y pratiquer. Et cela, on peut le vérifier à l'échelle de nombreuses villes dès les années 90, l'importance qu'on peut avoir les halles dès les années 90 à Paris. Puis après, d'autres espaces très précis en fonction des parcours et des origines sociales aussi des jongleurs et jongleuses. Il pouvait y avoir d'un côté un endroit où on pouvait jongler dans le gymnase de l'UNS de la rue d'Ulm, et de l'autre, l'esplanade devant le palais de Tokyo pour d'autres jongleurs qui pratiquaient aussi le feu, et un parking juste à côté de l'école d'ingénieurs qui était nommée Epitech. Voilà.
Et est-ce que tu peux nous raconter, toi, est-ce que tu as pratiqué dans l'espace public et comment ça se passait? Est-ce que tu pourrais nous raconter, nous faire un petit tableau d'un moment passé à apprendre dans l'espace public, Cyril?
Alors, oui, ben, on va dire très, très jeune, tout simplement, il y avait la possibilité parce que comme moi, j'ai moi-même pris goût très rapidement aussi à la découverte de YouTube, avec l'importance que pouvait avoir déjà ce premier site d'hébergement pour moi quand j'avais mon premier ordinateur à la maison. Dès 2007-2008, en fait, j'ai tourné mes premières vidéos dans l'espace public, même dans une petite ville comme Pithiviers, par exemple. Oui, j'ai encore le souvenir, voilà, de cette pratique déjà. Comme j'étais seul, entre guillemets, parce que je pourrais dire aussi que j'ai eu l'occasion de faire des spectacles de rue avec une petite compagnie jusqu'à ma majorité. En tout cas, il y avait souvent ce sentiment, comme j'étais seul, je pouvais me filmer aussi en investissant l'espace public et en faisant une sorte de terrain de jeu. Ou immortaliser un petit peu, garder trace des figures, des techniques que je pouvais développer ou d'une certaine manière inventer et les partager à mes pairs. C'était surtout avec le Diabolo. Et après, il y a eu aussi le réflexe de plus en plus, lorsque j'étais au lycée, de jouer avec des amis qui avaient aussi développé ce goût pour la pratique amateur du jonglage. On jouait facilement aussi en espace public. Donc, j'ai surtout ces souvenirs-là. Et puis après, ceux les plus récents, ce sont en fait les lieux actuellement, enfin les principaux endroits investis par les jongleurs et jongleuses lorsqu'on a l'occasion de se retrouver. Donc, ou bien en convention, tu peux imaginer, par exemple, lorsque j'étais à Brunec en Italie, j'ai vraiment le souvenir aussi d'avoir vraiment jonglé dehors, et pas uniquement dans un gymnase, mais dans toute cette petite ville aussi où on pouvait se mettre dans un endroit pour aller jongler. Et après, sinon, des lieux qui sont un peu plus permanents, mais qui sont quand même à la fois isolés et en même temps assez ouverts, comme par exemple le 104, où tu sens quand même que tu n'es pas non plus que dans un intérieur, mais un petit peu dans la ville aussi.
Et est-ce que tu peux nous expliquer comment cette présence dans l'espace public permet d'apprendre d'autres pratiques? Comment elle permet de se relier aussi à d'autres communautés?
Eh bien, je pense que le premier réflexe, la première raison assez évidente, notamment avec le cas du 104, c'est que tu es souvent amené à ne pas être le seul praticien ou la seule praticienne à pratiquer dans l'espace public. Et quand tu choisis un endroit comme par exemple le 104, eh bien, ce sont beaucoup d'autres pratiques qui peuvent être aussi au même endroit. Et en l'occurrence, par exemple, la breakdance, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup découvert. Et je me suis beaucoup plus familiarisé, ne serait-ce qu'en tant que spectateur, parce que je ne suis pas praticien de breakdance, mais en tout cas une grande sensibilité à force d'en avoir vu autour de moi à cette occasion-là. Ou alors, quand j'étais plus jeune, le fait de pratiquer le monocycle avec des gens qui faisaient du BMX, eh bien, c'était pas un si heureux hasard que cela, parce que en fait, il y a beaucoup de jongleurs qui ont commencé par le BMX, et donc tu es amené, comme toutes ces personnes-là aussi partagent le même espace que toi, à vraiment sentir non seulement des affinités, mais aussi des manières similaires de faire, notamment en compilant des vidéos de la même manière ou en montant des vidéos de façon assez proche, quoi. Les vidéos de skate ont beaucoup influencé au début des années 2000 des jongleurs. C'était pareil pour le BMX, finalement, aussi.
Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle place ou quel rôle même prend l'espace public dans une pratique du jonglage qui serait post-anthropocentrique ? Pour le jonglage, l'objet est au centre et du coup, on se décentre de l'homme, de l'anthropocentrisme. Et qu'est-ce que ça implique dans le lien avec l'espace public ?
Alors c'est une question que je n'ai pas eu l'occasion encore de trop déplier, mais qui, je trouve, est assez intéressante quand même à mettre sur la table. Elle est assez récente pour moi, si tu veux, par rapport en fait au fait que je l'ai appréhendé depuis que quelques années. C'est surtout lié en fait aux travaux de ma directrice Julie Sermon et d'une camarade aussi doctorante Emma Merabé, qui depuis quelques années tente à investir de plus en plus des questions qui amèneraient à poser la relation entre ce que peut nous apporter cette relation entre art et écologie, et intervient assez régulièrement pour moi, en tout cas par rapport à la place et à la modalité de présence que peut avoir le jongleur vis-à-vis de ses objets, vis-à-vis de l'environnement dans lequel il évolue, parce que c'est la première définition qu'on va appréhender pour l'écologie, sans qu'il y ait tout de suite une dimension militante ou même dans ce que Julie Sermon appellerait un nouage thématique, de traiter par exemple de sujets d'actualité. En fait, il y a ce terme post-anthropocentrique qui en fait est emprunté à Hans Thielemann, qui est un chercheur en études théâtrales. Hans Thielemann proposait en fait d'analyser différentes scènes, de donner en fait une idée de la tendance que l'on pouvait faire des scènes contemporaines dans les années 90, et il mettait en avant justement, il se proposait de recourir à un terme qu'il emprunte lui-même à une femme qui a commencé à développer aussi les études éco-théâtrales aux États-Unis. C'est vraiment tout de suite commencer déjà à appréhender l'importance que peut avoir l'environnement dans notre champ disciplinaire. Ça n'est pas que lien dans les études théâtrales, mais en tout cas, quand il convoque cette notion de post-anthropocentrique, c'est vraiment pour désigner plusieurs modalités de présence de l'acteur ou de l'actrice. Donc l'humain par rapport au non-humain, comment, dans quelle mesure est-il présent sur scène? Et il y a trois modalités de présence qui pourraient être là interrogées aussi dans le contexte de l'espace public, qui peuvent être stimulants. Donc, la première modalité de présence, c'est qu'il soit décentré en ayant recours en fait à des machines animées, hein, qui font qu'on le voit presque plus, mais il pourrait tout à fait être tout simplement beaucoup plus discret. En fait, il va être comparable à un élément dans le paysage où il évolue. En tout cas, la place est relativisée et il peut arriver même, tu vois, une autre modalité de présence qui soit complètement absent, l'humain, et qu'en fait, on est surtout à voir une sorte de théâtre, de cirque d'objets, et bien là, dans l'espace public. C'est tout à fait, à mon avis, opérant quand même de se poser cette question-là, des modalités de présence pour le jongleur dans l'espace public, dans une perspective post-anthropocentrée, car pour le jonglage, il est tout à fait envisageable, à mon avis, de mettre en avant des objets qui pourraient se mouvoir eux-mêmes, ou en tout cas s'inscrire notamment dans une création in situ. Tu as tout de suite cette possibilité de mobiliser d'autres éléments, pas seulement que des objets, mais juste des éléments, de jongler avec l'environnement, en tout cas de penser le jonglage à partir de l'environnement dans lequel tu évolues. C'est vraiment une conception que défend, par exemple, un jongleur comme Laurent Chanel aujourd'hui, mais qui ne propose plus vraiment du jonglage, tu vois, explicitement. On aurait du mal à qualifier ce qu'on voit de jonglage, mais lui ne voit aucun souci à ce que l'on puisse quand même appréhender, voilà, ce rapport qu'il a avec l'environnement à partir du jonglage. Et tu pourrais aussi avoir d'autres exemples où là vraiment on a des objets dits codifiés, c'est-à-dire des objets, tu vois, qui se rapportent à vraiment à l'imaginaire que l'on peut avoir du jonglage, une massue par exemple pour le collectif protocole. Eh bien, ça peut vraiment s'intégrer aussi dans l'environnement et être amené à être un objet avec lequel il peut avec ses acolytes. Ils sont cinq, généralement, voilà, dans le cadre de résidence de territoire, envisager vraiment d'investir tout un quartier et donc finalement de penser aussi leur place, quoi, d'être vraiment intégré au sein de, bah, pas seulement dans la dimension humaine, c'est-à-dire qu'ils font connaissance avec des gens qui habitent le quartier, mais aussi dans leur déambulation et leur manière, là même à l'échelle de la France entière, dans le cadre de Périple 21, de faire des errances jonglées entre deux villes, par exemple, eh bien ça, ouais, ça invite à mon avis à quand même vraiment questionner ce que peut nous apporter voilà, cette notion d'espace public pour analyser des scènes post-anthropocentriques.
Une attention, le jongleur attire notre attention sur l'objet et transforme les capacités de l'objet et du coup notre relation avec eux et quand les objets sont mis en jeu dans l'espace public, cette transformation de regard, elle s'opère aussi sur cet environnement. Et tu étudies aussi les systèmes de notation du jonglage depuis les années 80. Est-ce que tu peux nous parler de la fonction de la vidéo dans ces systèmes de notation du jonglage ?
Oui, eh bien, ce qui est assez étonnant, c'est quand tu mentionnes, voilà, justement l'importance que peut avoir la vidéo, c'est qu'au-delà, voilà, de ce rôle qu'elle a pu jouer de plus en plus au fur et à mesure que les médias, en fait, auxquels pouvaient avoir accès des jeunes comme moi et même la génération qui m'a précédé, c'est-à-dire à l'époque des VHS, puis après des DVD, et ensuite progressivement aussi d'Internet qui tendait à se démocratiser jusqu'au début des années 2000. Jusqu'à, en fait, par exemple, une date comme 2006 avec vraiment YouTube qui commence à bien être en place, eh bien, tu as souvent aussi dans cette fonction pédagogique que peut avoir la vidéo, au-delà de partager à tes pairs, tu vois, des techniques. Généralement, pour des systèmes de notation, ça peut vraiment être un endroit où inscrire justement des codes, en tout cas les traces de ce genre de notation, car elle est assez simple à retranscrire et c'est pour ça qu'elle a été aussi a été préférée par rapport à mon avis à d'autres. C'est que il suffit d'avoir en fait un clavier avec donc des chiffres et des lettres pour pouvoir laisser une idée en tout cas de ce que tu veux faire avec le jonglage. Alors évidemment c'est partiel, mais tu peux avoir vraiment des images comme ça de vidéos où un jongleur ou une jongleuse veut communiquer le sidespap justement qu'il a envie de faire, sidespap, qui est vraiment ce genre de natation popularisée et qui était très présente aussi déjà à l'époque, au début des années 2000. Tu vois, par exemple, dans un DVD réalisé par plusieurs diabolistes, Diabologie, j'ai encore le souvenir, tu vois, de plusieurs séquences où à chaque fois il y a vraiment un jeu de la part des jongleurs qui ont co-réalisé ensemble. Voilà, ce DVD, de vraiment d'inscrire les chiffres, par exemple, qu'ils pouvaient faire pour représenter voilà, les temps de lancer avec leur diabolo. Et donc, avoir des chiffres inscrits sur un mur ou dans le paysage, c'est assez drôle. Voilà, comment...
Donc, on a un système de notation qui mobilise des chiffres, des parenthèses, etc. Est-ce que tu peux nous raconter comment on se retrouve avec un système de notation comme celui-là? Il y a beaucoup d'ingénieurs qui pratiquent le jonglage, beaucoup de mathématiciens.
Oui, notamment, je pense que c'était en ce sens-là, ouais, tout à l'heure, où je mentionnais l'importance que peut avoir l'origine sociale, ou en tout cas l'origine scolaire de ces praticiens et praticiennes. C'est que beaucoup sont en effet, c'est assez étonnant, mais par exemple pour le DVD Diabologie, Tu peux regarder l'ensemble, enfin, ils étaient presque une dizaine de diabolistes, et sur la dizaine, il y avait seulement, je crois, Tony Fribourg qui était déclaré jongleur professionnel au début des années 2000, et le reste de ces personnes étaient encore ingénieurs ou étudiants en école d'ingénieurs. Et cela n'est pas un heureux hasard, tu peux le voir dès les années 80 avec l'attrait que peut avoir aussi le jonglage pour les mathématiques comme objet d'étude, avec des théorèmes comme celui de Shannon qui sont des points de départ pour juste être en fait un objet d'application. Mais la facilité aussi de pouvoir accéder à cette pratique en sachant jongler à trois balles, ça tout le monde peut pratiquement l'apprendre, eh bien, ça invitait facilement des mathématiciens et notamment de jeunes mathématiciens début des années 80 à développer cette notation qui s'appelle le SideSwap. Et voilà l'heureux hasard aussi avec Epitech, en fait, cette fameuse école d'ingénieurs où il y avait un parking où plusieurs jongleurs et jongleuses parisiens et parisiennes se retrouvaient.
Donc, on a un système de notation qui combine chiffres et lettres, qui est inscrit dans l'espace public, qui est là quasiment traité comme un tableau noir. Et le jongleur se place devant ce système de notation et réalise un exemple. Est-ce que c'est comme ça que se passe la vidéo ?
Oui, oui, généralement. C'est pour ça que c'est à la fois très intéressant d'un point de vue pédagogique, parce que tu peux vraiment généralement, en plus, si tu as une longue lignée de chiffres et de lettres et de signes, tu peux vraiment avoir le temps de lire progressivement ce qui est réalisé. Là, je vois 9, puis ensuite 7, puis 5, puis ensuite 3, puis 1. Et en fait, on dirait 9, 7, 5, 3, 1 si on connaît et que la personne en face est praticien, praticienne et maîtrise déjà le SideSwap. Par contre, si on ne le connaît pas, ben c'est bien pratique d'avoir une vidéo où tu vois progressivement s'inscrire une lecture de ce chiffre. Ouais.
Et tu parles de dramaturgie du jonglage. Et est-ce que tu peux nous raconter comment l'espace public urbain et la vidéo s'inscrivent ou composent avec ou de la dramaturgie du jonglage?
Eh bien, oui, je pense que d'ailleurs, ce sera intéressant de tout de suite préciser qu'on emploie ensemble ici dramaturgie au pluriel pour, par humilité face à la complexité de cette notion qui peut prendre plusieurs sens. On entend généralement, voilà, au premier abord, dans le langage courant, beaucoup d'artistes peuvent tout de suite sentir qu'on est en train de renvoyer l'écriture, alors qu'en réalité, dramaturgie peut renvoyer à un ensemble de gestes, de postures, de positions qui sont très variables, notamment dans le cirque, où, contrairement au théâtre, où il y a eu vraiment, pendant un certain temps, quand même une des positions qui ont pu être clairement affirmées, avec un dramaturge clairement établi dans un théâtre, par exemple en Allemagne, c'est souvent le cas. En France, ça a tendu à être vraiment d'autant plus difficile à saisir que tu as vraiment des personnes qui peuvent toutes et tous endosser cette fonction de dramaturge dans la création, ou alors vraiment une personne extérieure, comme moi, je suis de plus en plus, par exemple, amené à le faire, c'est-à-dire que une sorte de consultant, de personne qui va pouvoir pas seulement donner un retour, juste réception de spectateurs, de spectatrices en regard extérieur, mais avoir peut-être une certaine influence sur le choix qui va être fait en termes de mise en scène ou sur la scénographie, en tout cas, ou d'autres composantes scéniques. Mais après, du point de vue du jonglage, c'est vraiment une question là, que je continue à me poser, à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, de savoir arriver à donner un aperçu de ce que seraient ces dramaturgies du jonglage. Mais étant donné, tu vois, cette définition là, cette esquisse de définition que je te donne, l'importance après que peut avoir le jonglage dans l'espace public et être appréhendé, voilà, dans cette perspective dramaturgique, ça amène quand même à se poser des questions sur ce que l'on peut, dans quelle mesure le jonglage fait sens ou dans quelle mesure il peut être responsable du sens. De ce que l'on exprime dans l'espace public. On peut reprendre en effet après un certain nombre de questionnements qui nous viennent très rapidement. J'en donnerai qu'un seul parce que voilà, il y en aurait plein d'autres, mais tout à l'heure on parlait justement de l'intérêt que peut avoir un objet qui soit non codifié ou non. Bon, ben là on s'intéresse surtout à la fonction potentielle que peut avoir un objet, tu vois, qui soit un objet de la vie ordinaire, c'est pas la même chose du tout que de mettre, d'aller penser à la dramaturgie d'un spectacle où il y aurait tout de suite que des massues blanches en plus, en plastique. Ça amène un certain nombre de questions notamment à Johann Schwarzenegger pour le collectif Protocole, qui lui-même est dramaturge, a pu appréhender. Qu'est-ce que c'est que d'aller jongler avec des massues en plastique industrialisées, reproductibles par milliers, d'aller jongler avec ces objets-là dans un monde urbain la plupart du temps.
Et cette inscription de la ville dans des dramaturgies du jonglage, elle se traduit aussi dans les vidéos et notamment à travers la musique, c'est bien ça ?
Oui, mais on peut le voir. Enfin, je pense quand même qu'il y a des restes. On a avec nous, la communauté des jongleurs et jongleuses amateurs et amatrices porte quand même un certain héritage et on va dire un certain nombre d'éléments qui constituent un peu cet imaginaire avec lequel ils vivent encore aujourd'hui. Enfin, quand tu as grandi avec ces musiques qui ont été souvent quand même réutilisées, ça peut provoquer énormément d'émotions déjà chez les jongleurs et jongleuses qui peuvent les reconnaître, mais surtout dans la façon dont tu peux voir quand même avec récurrence les mêmes artistes, les mêmes styles de musique qui sont parfois proches du skate ou d'autres, mais après
il s'agit de quel style de musique et on avait parlé aussi ensemble du lien avec les jeux vidéo espace référentiel de description de la ville finalement.
Je pense que là-dessus ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il peut y avoir en effet cette place, c'est assez drôle, mais oui, même des jeux de société, il peut y avoir vraiment ce parallèle qui peut être fait par un jongleur comme par exemple Jonathan Lardillier pour expliquer la notation qu'il développe en parallèle du sideswap pour voir une notation qui soit plus inclusive et qui ne soit moins dure à apprendre et plus accessible, à le comparer en fait cet apprentissage avec celui du fonctionnement que suppose le jeu de Go où on n'a pas vraiment de perdants ni de gagnants, mais de personnes qui doivent nécessairement avancer ensemble s'ils veulent que la partie ait lieu. Après, pour les jeux vidéo, je pense particulièrement à Eric Lonskel ou d'autres personnes pour qui cette pratique ou en tout cas ces autres occupations, on va dire, peuvent vraiment influencer leur pensée et à mon avis être injectées parfois même dans leur spectacle, y compris dans la façon dont par exemple une vidéo tournée avec justement Jonathan Lardillier peut inclure par exemple une vidéo une musique de jeu vidéo comme Mario par exemple.
Merci beaucoup Cyril.
Eh bien merci beaucoup à toi Nîmes.